Que savez-vous de l'autisme? Avez-vous déjà rencontré une personne atteinte d'autisme? Alors les réponses pourraient être « c'est bien possible, mais je ne le savais pas » ou encore « oui, mais je ne savais pas trop comment réagir ou comment interagir avec une personne qui présente des troubles autistiques ». Mais la réponse pourrait également se trouver dans une bande dessinée, Théo Chavaillat.
Une bande dessinée intitulée « Tu sais quoi, je suis autiste, mais » les spécialistes appellent ça les troubles du spectre autistique. Ces troubles, chez les plus jeunes, ils sont présentés en couleurs, en cases et en bulles sur une vingtaine de pages. Le but de cette BD, sensibiliser le public aux diverses facettes de ce handicap, comme les difficultés que peuvent avoir les jeunes autistes à communiquer, à interagir, ou les comportements répétitifs, l'hyper ou l'hyposensibilité au bruit ou aux odeurs. Bref, cette bande dessinée donne plusieurs pistes pour mieux comprendre l'univers des autistes. Dernier détail, et pas des moindres, sa conceptrice vit en Suisse romande.
Et elle est avec nous en studio. Bonjour Daniel Corin.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est suite à votre impulsion que cette BD a vu le jour, avec le concours de plusieurs partenaires, plusieurs associations romandes actives autour de l'autisme. Et pour en parler également avec nous, la doctoresse Mandy Barker. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre spécialisée dans les consultations et le dépistage des troubles du spectre autistique, justement, dès le plus jeune âge. Daniel Corin, on va peut-être commencer avec vous. Vous êtes à l'origine de cette bande dessinée qui s'appelle donc « Tu sais quoi, je suis autiste, mais » trois petits points. Alors vous n'êtes ni illustratrice, hein, ni BDiste, vous étiez simplement maman d'un enfant autiste.
Oui, j'étais maman d'un enfant autiste, atteint d'autisme, et c'est une impulsion qui m'est venue un jour dans une librairie, et je voulais acheter une BD pour mon petit-fils, et là tout d'un coup je me suis dit mais... est-ce qu'il existe une BD pour les personnes atteintes d'autisme? Et comme l'année dernière, la journée du 2 avril, c'était pour les adolescents atteints d'autisme, donc j'ai pensé tout de suite faire la BD sur les adolescents.
Le 2 avril, journée mondiale.
Journée mondiale de l'autisme.
De l'autisme. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la bande dessinée, finalement, comme vecteur de sensibilisation?
Parce que ça illustre bien les différents troubles de communication de ces adolescents, de ces enfants, de ces adultes qui aimeraient communiquer avec nous, mais que nous avons notre forme de communication avec eux. Et puis, nous sommes trop rapides dans notre langage, déjà. Ils ont difficile de comprendre. Il faut être assez direct avec eux, avec assez précis. Ne pas vouloir aller vers eux et tout de suite leur tendre la main, leur dire bonjour de loin, leur demander si éventuellement ils veulent bien nous donner la main, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les contacts. Il y en a aussi qui sont mutiques. Donc, il faut leur expliquer par quelques petits gestes qu'on est heureux de les rencontrer.
Dans cette bande dessinée, tous les personnages sont de jeunes personnes atteintes d'autisme. C'est un choix, c'est volontaire?
Oui, c'est volontaire, puisque c'était adressé à des adolescents. Bon, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Donc, si vous avez pu remarquer, dans la BD, il y a peu d'histoires concernant les adolescentes.
Les scénarios, justement, de ces petites histoires sur l'autisme sont inspirés de ce que vous avez vous-même vécu en tant que mère d'un enfant autiste, Daniel Corin.
Oui, et puis aussi de l'entourage, de tout, parce que nous avons créé, évidemment, un cercle d'amis. Et puis, il y a le comité du 2 avril, il y a autisme suisse romande, donc nous avons là beaucoup d'amis qui ont des choses à raconter, et alors qui m'ont bien soutenue, et je les en remercie beaucoup, et qui m'ont raconté des petits sujets un petit peu caractéristiques et qui ont été donc mis en dessin par David Mazzolini, et que je dois dire qu'il a fait ça très très bien avec les scénarios donc par Jean Pop.
Je me tourne maintenant vers la pédopsychiatre Mandy Barker. Cette bande dessinée, vous la connaissez assez bien. De quelle manière vous l'utilisez dans votre quotidien de thérapeute?
Alors effectivement, cette bande dessinée est vraiment un outil super pour utiliser. C'est vrai qu'il a été, bien sûr, l'impulsion avec Daniel Corin, mais tout le comité 2 avril, c'était dans l'idée de sensibiliser le public, puis surtout sensibiliser les ados. Alors moi, je l'utilise un petit peu dans deux sens à la consultation. L'un, c'est vraiment quand on va dans les écoles parler avec les jeunes d'une ou d'un camarade de classe qui a le syndrome d'Asperger ou qui a atteint d'autisme. On peut l'utiliser pour leur montrer. Ils adorent ça. On a fait plusieurs sensibilisations à des jeunes de 14-15 ans. Et puis l'autre, c'est aussi pour les familles et les enfants eux-mêmes atteints d'autisme qui peuvent découvrir cette BD. Et mieux comprendre. Peut-être juste, je rajoute, pourquoi peut-être une bande dessinée, ça fait penser aux pictogrammes qu'on utilise pour mieux communiquer avec les personnes.
Aussi en thérapie, donc.
Voilà, disons, dans le quotidien des personnes avec autisme, c'est pas toujours facile de tout comprendre par le langage parlé. Donc on aime bien aussi utiliser l'image.
Voilà. On peut bien sûr pas résumer l'autisme en 20 pages, hein, aussi bien illustré et scénarisé soit-elle. Personnellement, j'en ai appris beaucoup sur ce handicap grâce à cette bande dessinée, mais de votre expérience, et de manière générale, quelles sont les erreurs que tout un chacun commet face à une personne autiste? Je pense à des erreurs de base qui font que la communication ou la compréhension sera difficile, voire impossible.
Alors bon, c'est une question assez complexe, mais je dirais que déjà, les personnes avec autisme, on le voit pas. C'est très rare qu'on voit, c'est des personnes tout à fait ordinaires, j'ai envie de dire, au niveau physique. Donc, mais ils ont l'handicap et ça peut heurter les autres personnes. Parce que, par exemple, on rencontre avec une personne avec autisme qui raconte toujours la même phrase, hein, quelque chose de stéréotypé, et avoir l'impression que la personne fait exprès. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, même dans les classes avec des enfants avec le syndrome Asperger, où les personnes pensent qu'ils font exprès de ne pas faire comme on leur demande. Mais ça, c'est leur difficulté, des fois, de ne pas saisir les consignes ou d'être pris.
Les différents codes sociaux.
Voilà.
Alors, si, par exemple, on est dans cette situation, on se rend compte peut-être qu'il y a quelque chose. Quelle est la bonne attitude à
adopter ? Alors, d'essayer d'être le plus naturel. Je veux dire, d'écouter, de ne pas s'énerver, surtout pas s'énerver, de ne pas faire trop de bruit non plus. C'est des personnes souvent sensibles. Enfin, voilà. J'ai envie d'être... Si on est naturel, ça se passe plutôt bien.
Oui, il n'aime pas le bruit. C'est une chose qu'il est... Ils se replient sur eux-mêmes. Je me rappelle qu'en été, on avait une voiture décapotable. On ouvrait le toit. Eh bien, pour notre fils, c'était, il bouchait les oreilles. Et c'était, il se mettait presque en boule. Il ne regardait plus rien. Il n'entendait plus rien. Alors, on n'avait pas compris au début. Et puis, alors, petit à petit, ça fait le tour. Et puis, on n'a plus jamais ouvert le toit.
Donc, éviter de créer un climat stressant ou oppressant.
Oui, comme les musiques qui vont trop fort, par exemple. Il faut éviter, parce que d'origine déjà, ce sont des personnes qui sont déjà angoissées, un peu stressées aussi. Et c'est pour ça que je reviens sur les pictogrammes. C'est vrai que, par exemple, pour notre fils, il avait toute sa journée mise sur un pictogramme. Donc, quand à un moment donné, il ne savait plus quoi faire, il tournait un petit peu en rond, l'éducateur lui disait « va voir ». Et il lui montrait le pictogramme, alors il savait qu'il allait dîner, par exemple. Alors ça le rassurait, ça le calmait. Il allait même vite voir à la cuisine ce qu'il y avait à manger. Mais c'est vrai que pour eux, il fallait que leur journée soit bien détaillée.
Mandy Barker, le dépistage de l'autisme dès le plus jeune âge, c'est l'un des objets de vos recherches. C'est un handicap qui ne se déclare pas systématiquement à la naissance. Hein. Est-ce qu'il y a certains signes forts chez l'enfant dont les parents devraient de tenir compte?
Alors effectivement, c'est rare qu'on voit quoi que ce soit à la naissance. Il y a beaucoup de recherches qui cherchent à pointer des choses. Mais disons comme ça, par rapport aux parents, ce qu'on voit, c'est que les parents observent des différences dès l'âge de 12-16 mois chez leur enfant, rarement avant. Donc ça, c'est un point important. Alors, quels sont les signes que les parents, pour lesquels ils viennent nous consulter? C'est souvent que l'enfant babille pas, a pas les premiers mots, regarde très peu l'autre, peu de sourire, interagit peu avec l'autre. Mais c'est pas facile. Les parents, c'est vraiment les personnes qui sont avec l'enfant le plus du temps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, les parents... jeunes parents sont de plus en plus sur l'Internet, donc finalement c'est eux qui demandent une consultation même avant que les professionnels s'inquiètent autour.
Alors derrière le terme autisme, on aurait tendance à mettre toutes sortes de troubles, vous en avez évoqué un ou deux tout à l'heure, il y a différents mots, mais finalement est-ce que de ces différents mots, est-ce qu'on peut en guérir de l'autisme. Est-ce qu'on peut passer par-dessus?
Alors, c'est vrai que le trouble du spectre autistique, c'est vraiment c'est l'idée de quelque chose de très, très vaste, passant par des personnes avec des troubles très sévères à des personnes avec des troubles beaucoup plus légers qui, dans le quotidien, fonctionnent avec un certain nombre de difficultés, mais qui voilà, suivent un cursus, j'ai envie de dire, ordinaire comme enfant. Ces enfants-là, avec des thérapies intensives, et même des enfants qui ont un autisme assez classique, avec des thérapies intensives dès un jeune âge, vont faire énormément de progrès. Et certaines personnes vont sortir de leur diagnostic à l'adolescence, à l'âge adulte. Il y a plusieurs recherches qui ont montré ça.
Ils n'ont plus les symptômes, entre guillemets.
Voilà, disons à l'âge adulte, ou alors ils ont vraiment réussi à trouver toutes les stratégies nécessaires pour que ces symptômes soient moindres. Donc c'est vrai qu'on dit quelque part, on n'en guérit pas, parce qu'il y a toujours, il reste quand même certaines difficultés qui peuvent revenir à certains moments. Mais voilà, après, c'est toujours quand est-ce qu'on pose le diagnostic. Et puis ça c'est quand même important de savoir ces thérapies intensives, et ça je le vois, ça fait presque maintenant 20 ans que je suis dans le champ de l'autisme, les thérapies actuelles amènent énormément et très rapidement des progrès chez les petits-enfants.
Muriel Mera.
Donc là, on ne parle que de thérapie, pas de médicaments comme par exemple la bipolarité qui va être stabilisée grâce à la chimie.
Alors, on n'a pas tellement de médicaments par rapport à l'autisme. Il y a des choses qui sont en recherche, mais c'est vrai que c'est plutôt les prises en charge, enfin les thérapies autour de l'enfant, toutes sortes de thérapies, de la logopédie, psychomotricité, thérapie cognitive, et tout. Je pourrais en nommer toute une foule de thérapies.
Le mot de la fin revient à Daniel Corin. Un deuxième tome de cette bande dessinée consacrée à l'autisme devrait sortir cette année, et il sera question de l'autisme chez les adultes,
oui.
Je crois.
Oui. Oui, mais elle ne sortira pas avant le mois de septembre. Mm-hmm. Parce que là, nous sommes. J'ai fait toutes mes enquêtes près de tous les parents. Et puis, éventuellement, près de certaines personnes autistes adultes qui ont répondu eux-mêmes à mes questions. Donc, ça, c'était très intéressant aussi. Mais alors, maintenant, donc, j'ai donné tout cela à Monsieur Pop et puis à David. Donc, maintenant, il va y avoir on va travailler en trio, si vous voulez, pour faire les dessins, pour les scénarios. Voilà.
Peut-être juste pour rajouter, parce qu'on parlait du comité 2 avril, hein, qui est là pour la journée de sensibilisation mondiale de l'autisme, toujours le 2 avril. Cette année, notre thème, c'est les adultes. Et c'est un petit peu dans ce contexte qu'il y a cette BD aussi par rapport aux adultes. Les adultes, l'intégration au milieu du travail.
On se réjouit de la découvrir et on a peut-être l'occasion d'en reparler ensemble sur ce plateau. Merci, merci beaucoup Daniel Corin, conceptrice donc de la bande dessinée Tu sais quoi, je suis autiste mais, et Mandy Barker, pédopsychiatre spécialisée dans les consultations et le dépistage des troubles du spectre autistique. Si vous désirez en savoir davantage, eh bien tous les liens utiles sont sur la page web dont on parle de ce jour. Merci beaucoup Théo.